Didier Bonneville-Roussy, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et bienvenue. La première des questions que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le copywriting, d'après votre expérience, dans la commercialisation sur Internet? Et est-ce que c'est important?
Dans la commercialisation sur Internet, je vous dirais que le copywriting est probablement la chose la plus importante. Parce que peu importe le produit qu'on vend, peu importe la façon qu'on utilise pour le vendre, peu importe les méthodes publicitaires qu'on utilise pour faire connaître notre site, par exemple, le copywriting devient la façon d'initier un contact, que ce soit en annonçant sur AdWords, en optimisant ses pages pour les moteurs de recherche, en demandant aux gens de s'abonner à une newsletter, en demandant aux gens, en présentant un texte pour vendre un produit, ou encore que ce soit pour les mailings, des envois par email à une liste d'abonnés, le copywriting devient ultra important parce que c'est ce qui, ultimement, peut faire la différence entre un site qui vend pour 100 000 euros par mois et un site qui vend pour 50 euros par mois.
Et vous-même, vous avez découvert le copywriting de quelle façon?
De quelle façon? Je dirais que je l'ai découvert il y a à peu près 9 ans par Jay Abraham, en découvrant
Donc,
ses
un grand spécialiste du marketing.
Un des grands spécialistes du marketing direct, pas simplement direct, mais en fait, c'est plus un stratège marketing qui fait abondamment usage de copywriters professionnels. Donc, par le matériel qu'il vendait et par d'autres trucs sur Internet que j'ai découvert. Bon, j'ai fait la découverte, par exemple, de Gary Albert, David Ogilvy, Gene Schwartz, John Carlton, Gary Betzvenga, où j'ai
Est-ce que vous avez un exemple du pouvoir de la rédaction publicitaire dans, dans des domaines très simples, par exemple avec un commerçant, ou de
Ben,
l'impact que
très
ça peut
simple.
avoir?
Ben, simplement, un exemple simple, c'est le cas d'une réclamation, quelqu'un qui n'est pas satisfait d'un produit et qui veut se faire rembourser, qui veut se faire rembourser ou remplacer le produit. Si le commerçant fait des histoires, une simple lettre peut facilement régler le problème, et ça s'applique pour une foule d'autres domaines.
Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait frappant. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des impayés. Et le recouvrement de créances, les courriers qu'on envoie pour récupérer son argent, c'est du copywriting. C'est une autre forme de
Absolument.
copywriting, mais c'est du copywriting. Et là, il s'agit de sommes souvent colossales. Il y a des entreprises qui ont des millions qui sont bloquées comme ça, en crédit, et il suffit d'écrire ou de se spécialiser dans ce domaine pour avoir un potentiel de clients formidable.
Oui, exactement. Un autre exemple comme ça, c'est les demandes de subventions. Une façon particulière de faire du copywriting, mais n'empêche que les mêmes principes s'appliquent. Il s'agit de découvrir ce que les personnes qui vont finalement octroyer la subvention veulent savoir, qu'est-ce qui les intéresse plus particulièrement dans un projet ou un autre. Donc, ça peut être très, très intéressant, particulièrement pour les entreprises en démarrage qui veulent obtenir un financement ou des choses comme ça, même pour la grande entreprise qui veut obtenir des subventions pour les salaires ou des trucs comme ça.
Et d'après votre expérience, après s'être intéressé au copywriting, avoir étudié ma méthode ou votre livre, en combien de temps est-ce qu'on peut commencer à rédiger des textes qui donnent des résultats?
C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience copywriting, ça peut être assez court comme ça peut être assez long. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable de de se débarrasser de ses propres préjugés très, très rapidement par rapport à la vente, par rapport aux autres, par rapport au monde qui l'entoure. Rédiger une lettre ou une publicité ou un mailing qui peut rapporter du moins, sinon des centaines de milliers de dollars, du moins quelques ventes ou quelques résultats, peut se faire relativement rapidement, je dirais en 3 mois ou en moins d'un an facilement. Par contre, c'est clair que cette personne-là ne sera pas nécessairement prête à gagner de très hauts revenus par le copywriting, mais je dirais que c'est très, très possible en 2 ans, 3 ans.
Donc, vous conseillez de commencer par une activité complémentaire. On garde son activité principale et on commence à expérimenter dans le domaine de la rédaction publicitaire. C'est bien ça?
Oui, absolument. C'est sûr que si quelqu'un veut se lancer dans ce domaine-là, et qu'il a déjà un boulot, c'est clair qu'il ne faut pas le quitter.
Une des choses, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que de nombreux correspondants qui sont dans des pays exotiques me disent des choses du genre « Ah oui, mais moi, Internet, je peux rien faire parce que dans mon pays, on n'a pas de compte en banque, dans mon pays, on n'a pas accès à Internet. » Et j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, le fait que Internet soit international n'est pas quelque chose qui est évident à comprendre. Est-ce que vous avez cette expérience aussi?
Ben écoutez, on n'a même pas besoin d'aller dans les pays exotiques pour avoir cette impression-là. J'ai juste à regarder autour de moi les entreprises qui se cherchent. Bon, je vais vous donner un exemple très, très concret qui m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans. Je voulais obtenir une subvention pour un démarrage d'entreprise et je fais ma demande, je montre que mon projet a des grosses chances d'être rentable et tout ça, je donne toutes les informations dont les personnes ont besoin pour prendre une décision éclairée. Et au moment de rencontrer ces personnes-là, la première question qu'ils me posent, pourquoi vous ne ciblez pas le Québec? Alors, comme j'avais l'intention de lancer une entreprise sur Internet, je leur ai simplement répondu parce qu'il n'y a pas de marché au Québec pour ce type de produit. Et ils étaient incapables de comprendre que l'Internet, finalement, à la limite, c'était plus simple de faire du commerce international par Internet que de faire du commerce local.
Ah, d'accord.
Pourtant, c'était des gens qui, supposément, étaient aptes à conseiller des entreprises. C'est-à-dire qu'il y avait un consultant en gestion, il y avait un banquier, il y avait un fonctionnaire, il y avait un comptable, il y avait un spécialiste de l'Internet aussi, et aucun d'entre eux était capable de concevoir que ça coûtait moins cher, que c'était plus simple, est plus rentable de cibler le marché international.
Ah, c'est frappant. Moi, j'ai un peu la même expérience de toutes sortes de pays qui s'imaginent que leur clientèle va être locale, mm-hmm. alors que le monde leur appartient. S'ils maîtrisent l'anglais, n'en parlons pas, et s'ils maîtrisent le français, la francophonie, c'est énorme. Moi, je vends aussi bien au Vietnam qu'à Haïti, qu'en Louisiane, et qu'en France ou au Québec.
Absolument.
Et une autre question, lorsque vous commencez à rédiger un texte publicitaire, quelles sont les principales questions que vous vous posez après avoir, donc vous êtes mis à la place de la personne?
Les principales questions que je me pose, d'abord, la première question que je me pose, c'est quels sont les principaux avantages du produit, toujours en prenant la perspective de la personne qui potentiellement pourrait acheter le produit. Je note tout ça. Ça peut, peut y avoir des dizaines de trucs, comme il peut y en avoir des centaines d'avantages. Par exemple, pour un livre, c'est très facile pour un livre ou un cours ou une interview audio ou des vidéos, c'est très, ça peut être facile d'aller chercher des centaines d'arguments pour convaincre les gens de
donc, la première partie, c'est recherche d'arguments.
Oui, et, la première partie, c'est la recherche.
Et est-ce que vous les mettez en ordre après ou
pas à cette étape-là, non. C'est-à-dire que je coupe les moins intéressants assez rapidement, mais je passe ensuite tout de suite à l'autre étape, qui est de créer ma promesse, c'est-à-dire créer mon offre.
D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une offre?
Bon, par exemple, en fait, une offre, c'est très, très simple. On offre un produit X à un prix X. Donc, Christian, je vous offre d'acheter le produit, par exemple, mon cours sur le marketing Internet, à 97 euros. Ça, c'est une offre. Ensuite, une offre, on peut la bonifier. Christian, si vous achetez mon cours sur le marketing Internet à 97 euros et que si dans les 30 jours, vous n'êtes pas satisfait de ce cours-là, vous pouvez obtenir un remboursement. Ensuite, on peut la bonifier encore. Christian, vous pouvez acheter je vous offre d'acheter mon cours sur le marketing Internet à 97 euros qui vous apportera cet avantage-ci, cet avantage-là, et on nomme tous les avantages. Si vous n'êtes pas satisfait dans les 30 jours suivant votre achat, vous pouvez exiger un remboursement sans que nous vous posions de questions. Une offre, c'est simplement la proposition d'échange d'un bien contre de l'argent ou contre un autre bien ou contre un service ou contre quoi que ce soit qui nous intéresse.
Oui, et là, la plupart des gens ne se rendent pas compte que des offres se sont construites sur des offres astucieuses et que mettre de l'intelligence, de l'imagination et du temps dans une offre est extrêmement payant.
Oui.
Vous avez une expérience récente dans le domaine des offres. Vous avez augmenté vos rendements dans des proportions considérables avec une offre, non?
Oui, absolument. L'offre que j'avais il y a quelques mois, disait tout simplement, je vous offre d'obtenir mon cours sur le marketing Internet, qui vous offre tous les avantages suivants, pour 97 euros. Si vous n'êtes pas satisfait au cours des 30 prochains jours, vous pouvez exiger un remboursement et je ne vous poserai aucune question. Ça, c'est une offre standard, conventionnelle. En plus, vous obtiendrez les trois bonus suivants. J'ai décidé de modifier mon offre en disant achetez ce cours. Si au cours de la prochaine année, vous ne multipliez pas par 10 votre taux sur l'investissement, c'est-à-dire que vous ne faites pas 1000 euros en profit supplémentaire grâce à ce cours-là, je vous rembourse le double du prix d'achat.
Wow!
Et les ventes ont triplé.
C'est un très, très bel exemple.
C'est un exemple que j'ai vu assez fréquemment sur Internet. Donc, en fait, l'offre peut devenir tellement importante qu'elle devient finalement une accroche.
Oui, tout à fait. Bon, on l'a vu souvent quand on vous dit 3 livres pour 1 euro, il est évident que l'accroche, là, devient l'offre.
D'ailleurs, cette offre-là, je l'ai transformée en accroche, qui est tout simplement, je vous parie 97 euros que ces informations vous enrichiront sur Internet cette année.
D'accord.
J'ai pas testé d'autres accroches autour de cette formule-là, mais probablement que si j'en testais d'autres, je pourrais probablement encore
augmenter vos rendements.
Augmenter les rendements.
Et à votre avis, quelle est la façon la plus simple et à la portée du plus grand nombre de commencer à gagner de l'argent sur Internet si on s'intéresse au copywriting?
Si on s'intéresse au copywriting, la façon la plus rapide de gagner de l'argent sur Internet, c'est clairement l'affiliation. En fait, il y a tellement rien, il y a vraiment rien de plus simple que l'affiliation comme concept. Quelqu'un a un produit, par exemple, Christian Godefroy a un produit, et il dit à des gens qui sont intéressés à le vendre, vous pouvez vendre ce produit, vous obtenez une commission de X% sur la vente de ce produit-là. Donc, vous êtes responsable de... Christian Godefroy est responsable de la rédaction des textes publicitaires et tout ça. Et l'affilié est responsable d'amener des gens potentiellement intéressés à ce produit-là vers le message. Bon.
Oui, c'est vrai. L'avantage, c'est qu'il n'y a, il n'y a pas de problème administratif. On est payé à la fin du mois. C'est facile, on n'a pas besoin d'écrire de l'HTML. C'est une bonne façon de commencer, c'est bien ça.
Oui. Ben, en fait, ce que je dirais que c'est la façon la plus pure de commencer un copywriting, dans le sens où on n'a pas de problème de gestion, par exemple. On n'a pas le problème de la livraison du produit, on n'a pas le problème de la comptabilité, on n'a pas le problème de la gestion du site Internet. Tout ce qu'on a à faire, c'est rédiger une bonne accroche, la faire en bannière, la mettre sur AdWords, la mettre sur Overture, et amener des clients potentiels, des visiteurs, au texte de vente qui a été rédigé par, normalement, un copywriter professionnel et qui est conçu, optimisé pour obtenir le maximum de rendement.
Et est-ce que vous n'êtes pas surpris? Moi, par exemple, je suis souvent surpris de voir que certains de mes affiliés se contentent de mettre le nom du livre et le lien. Comme ouais. si on n'avait pas besoin d'écrire quoi que ce soit pour développer l'idée du livre. Mais en fait, il faut bien se dire que même si on a un cours de copywriting, on peut quand même décrire un petit peu ce qu'il y a dans le livre ou les avantages qu'on peut retirer du livre avant de un lien.
Ben, je dirais là-dessus que si quelqu'un, n'importe qui veut vendre plus en affiliation, par l'affiliation, la méthode la plus simple de le faire, c'est carrément de se créer un petit site Internet d'une page sur lequel, plutôt que d'envoyer directement le visiteur vers le site pour lequel on est affilié, on va diriger le visiteur sur ce petit site-là, et sur ce site-là, ce qu'il y a, c'est une recommandation spécifique du produit. Par exemple, comment écrire une lettre vivante, la personne va faire une recommandation spécifique à ce produit-là.
On peut même, j'imagine, écrire un article, ou trouver des articles sur le sujet, oui. Trouver de l'information sur le sujet, rendre service à la personne qui vient là.
Exactement. Ça, c'est la méthode la plus, la plus efficace. Si on veut passer à une étape supérieure en efficacité, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se constitue une liste d'abonnés, de gens qui sont intéressés à un sujet X, par exemple le marketing Internet. On se constitue une liste d'abonnés en leur promettant qu'on va leur envoyer des informations sur le sujet, et en leur envoyant des informations sur le sujet, on envoie des recommandations pour les différents produits qui sortent, par exemple mon cours sur le marketing Internet, comment écrire une lettre qui vend, comment s'enrichir sur Internet sans avoir de site, le CV en référencement que j'ai fait avec Stéphanie Duc. Donc, les personnes développent un sentiment de confiance avec l'affilié, et l'affilié utilise cette confiance-là pour la rentabiliser auprès des affiliés.
Et d'après votre expérience, est-ce qu'on peut vraiment arriver à se créer un revenu sympathique en étant affilié?
Absolument, absolument. Pas seulement sympathique. D'ailleurs, je connais quelques personnes qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars simplement par l'affiliation.
Oui, j'en connais aussi, notamment, enfin surtout aux États-Unis. Il faut dire que dans les pays francophones, la filiation démarre seulement et que on n'a pas fait de gros efforts jusqu'à présent pour aider les affiliés.
Exactement, c'est ça. Ceux que je connais sont présentement aux États-Unis, fonctionnent en anglais, mais très rapidement en français, l'affiliation va devenir quelque chose de très, très rentable. Par exemple, j'ai des affiliés qui font facilement 500 000 euros par mois de commission.
Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est ça commence et pourtant ça a démarré il y a très peu de temps, mais c'est vrai que c'est une source de revenus en plus qui ne coûte pas grand-chose. Enfin, je veux dire qui ne demande pas beaucoup de temps chaque jour. Je pense qu'avec une demi-heure chaque jour, on peut se créer ce type de revenus. C'est quand même très sympathique. Et puis d'autant qu'on apprend quelque chose en plus.
Oui, c'est ça en plus. Une des erreurs que je vois fréquemment chez les affiliés, c'est de faire la promotion de produits qu'ils ne possèdent pas, donc qu'ils ne connaissent pas, pour lesquels ils ne peuvent pas faire de recommandations honnêtes. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas aller dans le spécifique, ils ne peuvent pas donner d'exemple de résultats que ça leur a apporté. Je crois que pour être un bon affilié, comme pour être un bon distributeur
De n'importe quel produit.
de n'importe quel produit, il faut connaître son produit, l'utiliser, l'aimer et pouvoir, à la limite, dire, bon, ben, si vous cherchez tel truc, par exemple, si vous cherchez à bien référencer votre site sur les moteurs de recherche, ben, le CD. En référencement de Stéphanie Létu est probablement plus intéressant que le cours sur le marketing Internet de Didier Bonvillot aussi, ou que comment écrire une lettre qui vend de Christian Godefroy. Par contre, si vous êtes plus intéressé à augmenter vos rendements, les rendements de vos mailings, ben, comment écrire une lettre qui vend est probablement le produit le plus adapté. C'est le genre de choses que les affiliés doivent commencer à faire s'ils veulent obtenir des revenus intéressants.
Oui, d'autant que une des clés, en fait, un des secrets de la vente, c'est l'enthousiasme. Quand on est enthousiasmé par un produit, quand on l'aime vraiment, la façon dont on en parle, aide considérablement à le vendre.
Non seulement ça, mais aussi ça transparaît dans ce qu'on écrit qu'on est enthousiaste par rapport à un produit. Si on trouve un produit mauvais et qu'on essaie de le vendre, ça va transparaître, les gens vont s'en apercevoir tout de suite, simplement en lisant le texte.
Quelle est votre expérience avec Google AdWords? C'est pour vous, c'est une source de revenus intéressante. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous vous en servez comme moi principalement pour tester des accroches ou pour tester des idées de produits? Enfin, comment vous vous servez de Google AdWords si vous vous en servez et qu'est-ce que ça vous apporte?
Première chose, Google AdWords, ultra efficace pour tester des accroches rapidement.
C'est aussi mon expérience, c'est fabuleux.
Si vous cherchez à créer, à évaluer l'impact d'une accroche au point de vue taux de clic, au point de vue de réponse, au point de vue augmentation d'abonnement, au point de vue augmentation de vente, il n'y a rien de mieux que Google AdWords pour la simple et bonne raison que c'est instantané. On fait le changement 15 minutes plus tard. L'annonce apparaît, l'accroche apparaît, et le lendemain ou surlendemain, on a déjà un résultat préliminaire de test.
Oui, et puis
Permet.
on peut tester 5, 10, 20 coches si on veut.
En plus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, personnellement, Google AdWords me rapporte 11 euros pour chaque euro que j'investis. Donc, si j'investis 200 euros un mois, ben j'en ai 2200 dans mon compte le mois suivant.
Et sur ce clic que vous obtenez sur Google AdWords, vous estimez que combien de clics peuvent logiquement pouvoir se transformer en vente?
Pour arriver à 11, Pour arriver à 11, je dirais que c'est moins d'1%.
Wow.
Donc, c'est parce que j'utilise une formule en deux étapes.
D'accord.
Quand je suis... merde. Il m'a fait le même... Est-ce que vous enregistrez?
J'enregistre, vous pouvez continuer.
Ah, ok, bon. Parfait. je dirais que quand j'obtiens parce que j'utilise une formule en deux temps, quand j'obtiens un taux d'abonnement de 10%, même moins, quand j'obtiens 2% de taux d'abonnement, ce qui n'est jamais le cas, des clics que je reçois de Google AdWords, c'est rentable. Et à partir du moment où ça dépasse le 2%, là, présentement, ça tourne entre 10 et 15%, là, je fais entre 10 fois et 15 fois le montant que j'ai investi en publicité. Donc, on peut facilement dire que un taux de réponse de 1/10 de pourcent à la limite, un taux de conversion d'un 1/10 de pourcent pourrait être rentable par AdWords pour mon cours à 97 euros.
D'accord.
Mais à 1%, ben ça devient extrêmement rentable.
Et à votre avis, est-ce que Internet est quelque chose qui va continuer à se développer? Et est-ce que c'est important d'être présent sur ce, on va dire, sur ce support qu'est Internet?
Je dirais que la réponse est ça dépend. Ça dépend pour qui, ça dépend dans quel but et ça dépend où. C'est-à-dire que une entreprise locale qui ne vend qu'à des gens qui habitent ou vivent à proximité ou travaillent à proximité de l'entreprise, l'Internet devient plus ou moins intéressant. Je dis plus ou moins intéressant parce qu'il y a un cas de figure où ça devient très, très intéressant. C'est quand on est en mesure d'aller chercher les emails de ces gens-là, c'est-à-dire de nos clients potentiels, et de faire des mailings réguliers pour amener les personnes au commerce.
Est-ce que, voyez, pendant que vous me disiez ça, j'étais en train de penser au boulanger.
Oui,
et puis, ma pensée a glissé vers d'autres boulangers que le boulanger du coin, des boulangers qui vendent du pain en Arabie Saoudite, qui vendent du pain par des tas d'autres moyens. L'âne, par exemple, il faut savoir que tous les matins, il y a du pain pour l'âne qui part aux quatre coins du monde, par avion. Et donc, c'est de la vente, qui se fait certainement sur Internet en partie, et en tout cas par correspondance.
Je vais vous donner un exemple bien concret. Par exemple, en France, il y a beaucoup de petits artisans qui présentent dans leur boutique, qui font à la ferme, par exemple, des produits du territoire, par exemple du foie gras. Si on regarde sur Internet, la demande américaine, nord-américaine pour le foie gras est absolument incroyable. Alors, quelqu'un qui se mettrait à vendre du foie gras sur Internet s'enrichirait de façon phénoménale.
Ah, il serait obligé d'aller acheter le foie gras à ses voisins, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Il serait obligé d'aller acheter le foie gras à ses voisins, mais il arriverait à recevoir probablement des milliers de commandes par mois simplement en utilisant l'Internet. Un autre exemple de ça, j'ai un client qui vend du sirop d'érable. Et il vend ses boîtes de sirop d'érable partout dans le monde. Et ça se vend très, 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 très bien. Pourtant, ce gars-là, avant de commencer sur Internet, ne faisait que du commerce localement.
Je comprends.
Donc, c'est intéressant pour à peu près n'importe quel type d'entreprise. Même pour le particulier qui veut se monter une petite affaire à temps partiel pour se monter un revenu supplémentaire, ça peut devenir très intéressant.
Et quels sont les avantages et les défauts d'une activité sur Internet?
L'avantage principal, je dirais que c'est simplement que l'on peut travailler de n'importe où dans le monde. Ça paraît con à dire, mais quelqu'un qui a un emploi, par exemple, et qui perd son emploi et qui décide d'aller vivre dans un autre pays ou dans une autre région, peut continuer à opérer cette entreprise sur Internet sans aucun problème parce que il n'y a absolument rien qui déménage. L'autre aspect, c'est que tout est instantané. C'est-à-dire que si on fait un envoi email ou un test d'accroche sur Google AdWords, par exemple, on reçoit les résultats instantanément. C'est-à-dire qu'on sait si ça fonctionne, on sait si ça ne fonctionne pas. Et on n'attend pas 3 semaines, comme c'est le cas, 3 semaines, un mois
donc,
et demi. Comme
donc,
c'est le cas,
on gagne beaucoup de temps, donc on gagne beaucoup d'argent, en fait.
Ben, en fait, c'est qu'on on gagne tellement de temps que plutôt que de faire, par exemple, je ne sais pas moi, 10, 15 tests par année, on peut en faire littéralement des milliers.
D'accord.
Sans problème. L'autre avantage, c'est que toutes les questions du ce que j'appelle le tracking, c'est-à-dire l'évaluation des résultats, se fait beaucoup plus facilement, ce qui permet d'interpréter les résultats pratiquement instantanément.
Et il n'y a pas aussi un aspect, comment dirais-je, mécanique, c'est-à-dire qu'on automatise quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches,
oui,
sur Internet.
Oui. Ah oui, ça c'est un autre aspect très très important, c'est que avec un peu d'effort, c'est-à-dire en passant quelques heures par semaine à travailler sur son entreprise Internet et à travailler systématiquement sur son automatisation, on peut se retrouver assez rapidement, en 90 jours, 6 mois, avec une entreprise qui est totalement automatisée et sur laquelle on n'a pas à travailler plus d'une heure par jour ou par semaine même.
Et quels sont les inconvénients alors?
Le principal inconvénient, c'est un inconvénient qui est relié à la capacité de convaincre. C'est-à-dire que comme la distance entre le vendeur et l'acheteur potentiel est tellement grande, il y a toute une question de confiance qui est moins évidente à construire, moins facile à construire sur Internet que par exemple, si on avait une boutique au coin de la rue.
D'accord.
Donc l'acheteur ne peut pas toucher au produit, l'acheteur ne peut pas voir le vendeur, il ne peut pas voir sa bouille, savoir si la personne une tête sympathique, ou si elle a l'air honnête, ou si elle a l'air d'un tueur en série. Donc, ça devient beaucoup plus difficile de construire la confiance, et c'est pour ça qu'il faut le faire par les emails, par la personnalité dans le texte, donner vraiment l'impression que les gens nous connaissent.
D'accord. Et si vous aviez un dernier conseil à donner à quelqu'un qui cherche à augmenter ses revenus ou à créer un business ou à développer son activité sur Internet, quel serait ce dernier conseil?
Le conseil le plus important que j'aurais à donner, ce serait celui-ci. Développez-vous une liste d'emails le plus rapidement possible. C'est la clé pour obtenir du succès sur Internet. Sans cette liste d'emails, vous travaillez pour rien.
Eh bien, merci beaucoup, Didier, de cette interview passionnante. Et puis, j'espère une prochaine fois. Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée. Bonjour.